Radio Courtoisie, histoire à la loupe.
Évidemment, petite Barrick se garda bien de révéler le nom de cette étrange personne qui achetait ses services, ni le moindre détail à son sujet. Secret professionnel oblige. Ce qui ne fit qu'aiguiser encore l'insatiable curiosité de l'enquêtrice. Elle estima alors que Matisse était à point et décida d'aborder le sujet délicat en l'invitant au restaurant, ce qui était inhabituel pour une femme. Mais comme on sait, Marie-Jo ne respectait pas les usages et adorait les transgresser.
Vous écoutez les histoires à la loupe sur Radio Courtoisie. Voici la huitième partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Comme ils s'étaient toujours rencontrés modestement et sans tambour ni trompette, elle avait adopté une stratégie de changement. Aussi, pour l'impressionner et pour marquer la solennité de l'instant, elle vint le chercher dans une voiture avec chauffeur qui les emmena à la grande cascade au bout du bois de Boulogne, non loin de l'hippodrome de Longchamp. Le restaurant commençait à installer des tables dehors pour l'apéritif ou le café, car c'était le printemps. Lorsque, après l'hiver, le soleil réapparaît brusquement et généreusement avant de disparaître quelques jours plus tard. Il était midi, et à cette heure tardive de la matinée, il y avait encore peu de monde, ce qui leur avait permis de choisir une table isolée du reste le long d'une vitre, d'où l'on pouvait contempler les arbres du parc et surtout l'imposant cèdre du Liban qui leur faisait face. Marie-Jo entendait maintenir haute la flamme, comme la gratitude de sa petite barrique pour continuer à avoir ses faveurs. Aussi portait-elle une mini-jupe de couleur ivoire, peau de serpent, ainsi que des chaussures à hauts talons assorties, ce qui lui permettait, quand elle était assise ou croisait les genoux, de découvrir ses belles cuisses fuselées, charnues, dorées, et ainsi de mieux séduire Matisse, lequel était venu en pantalon bleu roi, chemise blanche et bretelles rouges. Il savait en effet que ses bretelles avaient du succès, car celles qu'il admirait les réclamaient souvent, de façon quasi fétichiste. Chacun avait ainsi fait en sorte de plaire à l'autre, prenant plaisir à le faire. Il commanda une épaule d'agneau et elle un bar de ligne.
On couche souvent, mais on ne sort jamais ensemble,
lança-t-elle pour provoquer, le sourire aux lèvres.
« Mieux vaut être discret, non ?»
marmonna-t-il, mais il ajouta aussitôt.
« Aujourd'hui, nous ne le sommes pas, et c'est bien de changer un peu nos habitudes. »«
Aujourd'hui, je veux célébrer une réussite dont je suis fière. J'ai été admise dans la profession médicale. »«
Tu passes des examens à ton âge ?»«
Je suis ostéopathe. » Et il y a possibilité, grâce à une passerelle, d'intégrer le corps médical quand on a beaucoup d'années de pratique et passer un examen d'équivalence. Pour me récompenser, mon mari et mes fils m'ont fait un beau cadeau.
Tu m'as dit que tu étais mariée, mais je ne savais pas que tu avais des enfants.
Oh, ils ne sont plus des enfants, ils sont grands maintenant.
Et c'est quoi ce beau cadeau ?
Une somme rondelette pour acheter un lingot.
Un lingot ? Pourquoi pas des actions à la bourse ou une assurance vie ?
Oh, en ce moment, tout est risqué avec la guerre. Tout perd de sa valeur, tandis que l'or, c'est une valeur sûre, à l'abri des fluctuations. Une valeur refuge, comme on dit.
Tu vas acheter ça et le mettre dans un coffre stérile, inutile, ne produisant rien.
Oui, tu vois mieux comme placement.
Bien sûr que je vois mieux, ma déesse. T'as jamais entendu parler des bitcoins ?
Ah oui, mais c'est risqué. Ça peut monter très haut, mais tomber très bas.
En ce moment, tout baisse. Le dollar baisse, l'euro baisse, parce que ce sont des monnaies de banque centrale. Alors que les crypto-monnaies montent.
Tu es sûr ?
J'en suis tellement sûr que je connais un de mes clients qui en a beaucoup. Il a un bon moyen pour ne pas perdre. Il achète, garde 6 mois, ensuite il vend, même si ça continue de monter, et encaisse sa plus-value. Puis il en rachète un peu après, garde, revend, encaisse et ainsi de suite.
Il applique le vieux principe : toujours vendre trop tôt.
C'est vrai. Tu vois, tu devrais faire ça plutôt que d'acheter un lingot.
Je n'y avais pas pensé. Tu n'as qu'à me le présenter, ton client à Bitcoin.
Cette fois-ci, Marie-Jo l'avait ferré, le Matiche. Elle était toute contente de sa subtile manœuvre. En fait, il n'y avait pas plus de succès aux examens médicaux que de beurre en broche, ni de cadeau familial pour acheter un lingot. Toutes ces fariboles, c'était du pipeau, dont l'unique objectif était d'appâter Petite Barrique. Ça avait l'air de marcher.
Faut que j'y aille mollo, comme une ignorante naïve, si je veux aboutir.
Ils continuèrent à bavarder de ci, de là, et surtout à plaisanter. Quand arriva le Vacherin, qu'ils allaient se partager, et au sommet duquel trônait un mini feu d'artifice envoyant des étincelles tout autour, comme pour un anniversaire, Matisse le Vacheron Vert de Morgon en proclamant
« Vive le Bitcoin !»
et Marie-Jo leva le chien. Marcel Matisse réclama l'addition, mais Marie-Josette Liégeois objecta.
« Non, c'est ma réussite aujourd'hui et je veux fêter cela moi-même. »
Et elle fit signe au serveur de la lui donner. La mise en scène avait parfaitement fonctionné. Matisse organisa une rencontre avec Raoul Pajard, son client à crypto-monnaie. Ils se rendirent tous les deux à son bureau avenue de l'Opéra. Investa, c'était sa société qui investissait les fonds de ses clients dans des devises, des minerais, des actions, obligations, parts de SCI et bien sûr des crypto-monnaies. Le retour sur investissement était
« imbattable »,
avait précisé Matisse. Cette entreprise produisait aussi des animations dites événementielles ou cocktails pour gens huppés qui étaient
« payés une blinde »,
avait-il ajouté.
Par ceux qui commandent ces festivités, je suppose.
Non, c'est pas eux qui payent.
Ah bon ? Alors qui ?
L'État, c'est des fonds publics.
Et pourquoi ?
La société Investa a un accord avec l'État. Tout ce qu'elle organise, elle le facture sur des fonds publics.
Et en quel honneur ?
C'est le même système que le mien, mais en plus grand. Moi, j'ai passé avec le groupe de téléphonie des contrats pour externaliser certaines de ses prestations. Eh bien, Pajard a le même type d'arrangement, mais avec le service public. Cela rapporte beaucoup plus d'argent. C'est une très performante pompe Afrique grâce à ses accords. Et puis, il y a aussi chaque année l'aide à la presse.
Qu'est-ce que l'aide à la presse vient faire dans une société de placement et d'événements mondains ?
Elle sort toutes les semaines un petit journal sur Internet qu'elle envoie au grand public.
Petit journal, petite aide.
Oh, pas si petit que ça. Ça lui rapporte quand même plus de 200 000 euros chaque année.
Pigre ! Il s'est bien démerdé, le coquin.
Ouais, il s'est sucé avidement les fonds publics, comme toi tu sais sucer goulûment autre chose, ma déesse.
Question de goût. Moi, j'aimerais pas abuser de cette prédation, car elle est faite sans que le pompé s'en aperçoive vraiment, un peu à son insu, grâce à des complicités internes. Tandis que les braquemars bien raides j'y vais de bon cœur, parce que le pompier apprécie, et j'aime qu'on admire la qualité de mon travail. »
se disait-elle en secret. Ils furent reçus dans un petit bureau au 6e étage, d'où l'on pouvait apercevoir les toits des immeubles, reçus par un sous-fifre. Raoul Pajard vint les saluer à la fin de l'entretien. Il était manifestement trop occupé pour traiter ce modeste placement, mais il n'en était pas moins tout sourire et toute amabilité. Il débita tout un discours très sérieux, mais préfabriqué, hein, sans doute le même qu'il devait servir à tous ses visiteurs. De fait, Marie-Jo s'aperçut que pendant qu'il parlait, il semblait à peine remarquer la présence des autres. Il les admettait seulement comme auditeurs.
« Ah, ce cus est dans le paraître. Il s'écoute plus qu'il ne dialogue, »
se dit-elle.
« Rien que de la façade, du toc. Ils sont creux. »
Le hic, c'est qu'elle ne pouvait mettre que 40 000 €, prétendit-elle. Le sous-fifre lui fit savoir qu'ici, on ne prenait pas de si petites sommes. On ne prenait rien au-dessous de 500 000.
« je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. »
Tu comprends, Pajard est un héritier. Ses grands-parents ont fondé une grande fabrique de lits. Il est à la tête d'une grosse fortune et ne traite pas le small business.
Pourtant, small is beautiful. Non, si tu assembles le fric de beaucoup de petits pour investir, ça peut te faire beaucoup plus qu'un gros.
Peut-être, mais l'aval-taille, c'est pas le truc de Pajard. Ce qui l'intéresse, c'est de s'occuper des gros. Ça, c'est du lourd, ma petite, du motivant. Ce sont pas des gens qui ont gagné leur pécule misérablement et pendant toute une vie, qui ont amassé peu à peu des sous grâce à leur travail ou leur savoir-faire.
Un peu comme moi, non?
Un peu comme toi. Je suis en train de t'expliquer pourquoi Pajard t'a décliné.
C'est vexant.
C'est peut-être vexant, très cher, mais c'est aussi instructif. Ce que Pajard a dans le viseur, c'est ceux qui vivent assis sur un trésor ou sur une rente qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes à la sueur de leur front. Parce que quand ils possèdent un bon paquet, ils peuvent en lâcher plus facilement une partie. Normal, ils ne l'ont pas gagné. Ça leur est tombé dessus sans qu'ils l'aient mérité.
C'est marrant. Tu me fais penser à cette réplique de Leonardo DiCaprio dans le film de Scorsese, Aviator. Il est dans la famille de sa petite amie. Tous ces bourges sont pour Roosevelt, donc progressistes. Et il leur dit « Vous méprisez l'argent parce que vous en avez. »
Marie-Josette Liégeois avait prononcé cette phrase sarcastique en souriant d'un air mielleux. Mais elle n'avait pas fait rire Matisse.
« Tu comprends pas. Pajard ne méprise pas l'argent, seulement l'argent des petits. Celui gagné par le travail, car ce qu'il voudrait, c'est de faire partie du gratin, du haut du pavé, de l'élite, quoi. Ceux qui ont cet argent qui leur tombe sans effort, que ce soit du tout cuit. »
Comme des pirates qui volent un trésor, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, du tout cuit.
Ton Pajard, il fait pas un peu dans le snobisme?
Tu crois? À toi de juger. En tout cas, puisque Pajard ne veut pas de ton fric, j'ai quand même une solution pour toi, si tu veux toujours de la crypto-monnaie. Je peux t'en vendre, moi et au petit prix que tu veux mettre.
Super! Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt?
C'est peut-être ça que t'appelles du snobisme. Je voulais voir si Raoul Pajard te prendrait quand même, s'il serait moins sélectif.
Là, tu as vu.
C'est pourquoi je vais t'en vendre à ton petit prix. Mais je te préviens que pour 40 000 €, tu auras l'inscription du numéro anonyme dans la blockchain, mais pas de relevé de transaction à ton nom.
Ah, ah bon? Pourtant, si le relevé de transaction se pratique, C'est sans doute fâcheux de ne pas l'avoir.
Tu veux du pas cher, non? Donc tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
La liégeoise ne moufta pas, mais percuta tout de suite qu'il y avait là du louche. Non que son adorateur voulût l'arnaquer, certainement pas, c'était sa déesse, mais elle soupçonna que s'il lui vendait pour 40 000 euros quelque chose qui en valait le double, mais sans relevé écrit nominatif, c'est qu'il y avait lieu de subodorer, que le bitcoin avait sans doute été mal acquis, peut-être cyberpiraté, voire volé.
Certes, c'est anonyme la blockchain. Il y a juste une clé, un numéro. Pour l'obtenir, ces bandits auraient pu très bien placer un revolver sur la tempe du détenteur pour qu'il donne le numéro et que le transfert se fasse. Mais dans ce cas, vous conviendrez qu'on n'officialise pas la chose par un acte notarié, ni même par un document écrit en bonne et due forme. Volé, mais par qui ?
Se demanda-t-elle. Plongée dans la profondeur abyssale de cette réflexion, elle se souvint de l'enregistrement de la conversation téléphonique que Tournafond avait réussi à extraire du portable de Wafat.
C'est un bon paquet de crypto que tu vas trouver dans la maison.
Cette pensée émergea brusquement et refusa de partir. Elle resta là, accrochée dans sa tête comme une sangsue inextirpable.
Volée par Wafat et Serpialine au cours de précédents cambriolages ou braquages. Conclusion, maintenant que ces deux canailles sont sous les verrous, il va falloir qu'ils se mettent à table pour obtenir leurs aveux. Ce sera comme extraire une dent de sagesse. Faudra sans doute négocier une remise ou une réduction de peine.
La quinquagénaire s'arrangea alors pour casser ses tirelires, faire ses fonds de tiroir, vider ses comptes d'épargne et rassembler ainsi 40 000 euros. Les policiers avaient passé un accord de repenti coopératif avec Wafat et surtout avec Serpialine, qu'ils cuisinèrent en premier car c'était le maillon le plus faible du tandem. Un rendez-vous fut fixé au bureau de Matisse et elle vint avec son chèque, accompagnée d'un homme qu'elle présenta comme son mari.
« C'est lui qui avance les fonds ?»
précisa-t-elle. En réalité, c'était pas le mari, c'était l'inspecteur de police Nicolas Doron qui suivait l'affaire. Ils entrèrent dans les lieux et prirent la place qui leur était désignée. L'ostéopathe sortit son chèque et l'exhiba.
Pas besoin de chèque. Je préfère un virement pour la même somme. C'est plus sûr. Tu peux le faire demain. On est en confiance, toi et moi. Bon, attendez un instant, je vais aller chercher au coffre la clé.
Il revint, peu après, d'un air martial et sûr de lui.
« Est-ce que c'est assurable ?»
interrogea-t-elle, l'air faussement inquiète.
« Bien sûr, le risque de perte ou de vol est couvert par toutes les grandes compagnies d'assurance. »
« Ça me chiffonne quand même. » De ne pas avoir de relevé de transaction.
Je te répète que ce bitcoin, je le vends moitié moins que son prix normal.
L'inspecteur Doron intervint alors.
Ça, j'ai bien compris, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous le vendez à moitié prix. Parce que je l'ai eu moi-même à moitié prix, et même encore moins. De qui ? Les crypto-monnaies, vous savez certainement que c'est anonyme et confidentiel. On ne connaît pas l'identité de l'acheteur, donc je ne peux pas vous dire. Oui, mais si nous voulons revendre, comment ferons-nous sans document écrit ? Revendre à une des personnes susceptibles de l'acheter à un prix minoré et sans écrit. Vous voulez dire qu'il existerait un marché parallèle, une sorte de marché noir ? Il en existe un, mais je ne vous en dirai pas plus. Vous allez quand même devoir le faire. Je me permets d'insister. Désolé, mais il vaut mieux en rester là.
Le ton était monté d'un cran. Alors le faux mari sortit sa carte de la police.
Inspecteur Doron,
déclara-t-il, et il la posa sous le nez de Matiche, qui fit une drôle de tête.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
S'étonna-t-il en se tournant vers sa déesse, le visage préoccupé.
Cette histoire est simple. Nous savons que vous travaillez avec les sieurs Wafat et Serpialine pour cette crypto-monnaie, car nous avons eu accès à vos conversations téléphoniques.
Il lui passa l'enregistrement.
Combien ? Dit-on un chiffre ? 100 ?
En l'écoutant, petite barrique pâlit et se sentit en grosse difficulté. Mais il s'efforça de n'en laisser rien paraître. Et, après avoir repris ses esprits, il déclara d'une voix mal assurée
« Cet enregistrement n'est pas une preuve. Il a été pris à mon insu. On ne peut donc l'admettre. Allons, monsieur Matisse, ne faites pas l'imbécile. C'est bien votre voix qu'on entend, et celle d'Abdoul Wafat, qui l'a d'ailleurs reconnue. On ne vous a pas enregistré à votre insu. On a trouvé ça sur le portable de Wafat, que nous avons confisqué lorsqu'on l'a attrapé, faisant le guet dans une voiture devant un immeuble qu'il s'apprêtait à cambrioler. La preuve est irréfutable. Dispensez-nous de vos dérobades et jouons cartes sur table, voulez-vous ?
On ne se connaît pas, mais Madame Liégeois vous a faussement présenté comme son mari.
Oui, et alors ?
Et alors ?
Dit Matisse en levant le doigt pour argumenter. Pourtant, il ne put aller au bout de sa phrase et resta muet, bouche bée, regard vitreux, geste suspendu.
Ce que nous avons compris et que nous pouvons prouver, c'est que vous êtes un receleur de crypto-monnaies volées. Ça peut s'arranger si vous nous donnez le nom de vos commanditaires. Mais si on ne s'arrange pas, ce sera certainement grave pour vous.
En entendant ces menaces, petite barrique passa de l'inquiétude la plus palpable à la colère la plus froide et la plus dissimulée.
Qui doit s'apercevoir maintenant du piège que je lui ai tendu et doit me maudire et regretter tout ce qu'on a fait, même les bons moments.
Il devint livide et se mit à dégouliner de sueur.
Il a essayé de contrôler son effroi, mais maintenant, il ne peut plus rien contrôler.
On était au bord de l'explosion, de peur ou de fureur, quand l'inspecteur Doron profita du silence qui s'était installé, chargé de tension, pour apaiser l'atmosphère.
« Nous ne voulons pas nous en prendre à vous, monsieur Matisse, car on a d'autres chats à fouetter. Donc je ne vais pas tourner autour du pot, mais aller droit au but. »
Cette manie qu'il a, ce policier, de faire des phrases préfabriquées comme des formules magiques, ça doit être pour se faire comprendre des débiles mentaux, parce qu'on comprend toujours ce que ça veut dire, aller droit au but, pas tourner autour du pot, d'autres chats à fouetter.
Même Wafat ne nous intéresse que peu. Il a bien assez de problèmes, le pauvre. Nous voulons simplement connaître vos donneurs d'ordre et tous les détails sur eux. Si vous coopérez, on enterrera le dossier pour vous. Peut-être juste une petite amende et on n'en parlera plus. Mais il nous faut l'organisateur de ces enlèvements et braquages.
Il le cuisina avec autant d'habileté que de fermeté. Marcel Matisse accepta enfin d'ouvrir son coffre où se trouvait planquée une liste de clés et de numéros de crypto-monnaies volées et en attente. Et finalement, il dut se résoudre à lâcher les informations sollicitées. Le présumé organisateur était membre d'une mafia qui opérait depuis l'Algérie et le Maroc. Un certain Hamid Boujard, spécialisé, c'était son activité, dans les enlèvements de détenteurs de crypto-monnaies pour les relâcher contre paiement d'une rançon.
Cette fois-ci, on le tient,
dit Doron. Assurément, l'inspecteur, comme Marie-Josette Liégeois, furent tous les deux très contents de la découverte de cette nouveauté, car elle leur permettait de faire d'une pierre deux coups.
Comme dirait l'inspecteur Doron,
identifier l'auteur organisateur du méfait et bloquer la monnaie numérique sur la blockchain. Mais ils déchantèrent assez vite. En effet, Hamid Boujard ne pouvait être arrêté en France, ni même par mandat international, puisqu'il résidait au Maroc et ne voyageait pas. Leur déception fut cependant de courte durée, car assez vite, ils apprirent que le lieu où séjournait le Boujard en question, c'était la prison de Casablanca.
« Laissons-le croupir là-bas, ce salaud. Vu son casier judiciaire et la quantité de ses condamnations, il y est pour un bout de temps. »
conclut l'inspecteur. Il commenta
« Ce n'est peut-être pas plus mal, car dans ces pays, les peines sont plus lourdes que chez nous. »
Un soleil radieux venait de repointer ses rayons après plusieurs jours gris, et l'inspecteur ajouta
« Madame Liégeois, seriez-vous libre pour déjeuner ?»«
Je suis toujours libre !»
répondit Marie-Jo.
Vous venez d'entendre la 8e partie du récit Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Rendez-vous vendredi prochain pour d'autres histoires à la loupe. Histoire à la loupe.